RFI, 7h à Paris, 6h en temps universel.
RFI matin.
Bonjour Martin Guez.
Et bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous.
Benjamin Netanyahou se débarrasse d'un adversaire de taille.
En la personne de Ronen Bar, patron d'une Shin Bet, l'agence de sécurité intérieure israélienne. Ronen Bar étiqueté bête noire du Premier ministre, lui qui a multiplié ses enquêtes contre le pouvoir. Remercié cette nuit à la demande unanime du gouvernement, nous appellerons Michel Paul à Jérusalem en début de journal.
En République démocratique du Congo, le M23 continue sa progression et s'empare de Walikale.
Une ville minière de 60 000 habitants, carrefour du Nord Kivu, le groupe armé soutenu par le Rwanda, désormais aux commandes de Walikale, après plusieurs jours de combat avec les FRDC. Aux États-Unis, Donald Trump enterre le ministère de l'Éducation, ministère démantelé par décret. Enfin, à la veille de la journée mondiale contre le racisme, nous verrons qu'en France, les discriminations à l'emploi persistent, existent même dès les études supérieures.
Mais avant de développer ces titres, Martin, les glaciers sont à l'honneur ce matin.
Première journée mondiale des glaciers en ce vendredi 21 mars. Alors que pour la troisième année consécutive, les régions glaciaires ont fondu sur la planète, l'ONU qui estime que leur préservation est une question de survie. Simon Rosé, le rôle des glaciers est très méconnu et ils sont donc menacés.
274 531 glaciers sur la planète. À la fin du siècle, ils seront moitié moins en raison du réchauffement climatique. On estime en effet qu'à chaque kilogramme de dioxyde de carbone émis dans l'atmosphère, ce sont 15 kilogrammes de glace qui se liquéfient. L'humanité, par son usage des combustibles fossiles, a émis 40 milliards de tonnes de CO2 l'an dernier. Les glaciers sont menacés, ils risquent de disparaître et leurs bienfaits également. L'eau douce, évidemment. 60% de l'eau qui coule dans les rivières et fleuves de la planète provient des montagnes, fonte des neiges et glaciers cumulés, alimentant les deux tiers de l'irrigation mondiale. Pour la seule région Asie-Pacifique et la chaîne himalayenne, on estime qu'1,6 milliard de personnes dépendent de cette eau. Cette eau de fonte, en bout de course, finit dans les océans et contribue à l'élévation du niveau des mers. Un phénomène qui va s'accentuer à mesure que les températures augmentent. Les glaciers mondiaux ont de quoi faire monter les eaux de 50 cm s'ils venaient à disparaître totalement. On parle en revanche de dizaines de mètres si les méga-glaciers, les calottes du Groenland et de l'Antarctique se liquéfiaient entièrement.
Simon Rosé du service environnement de RFI Les Glaciers. On en reparle dans quelques minutes avec votre invité Julien, l'explorateur Vincent Colliard sera dans nos studios, tout simplement l'homme le plus rapide au monde à rejoindre le pôle sud en solitaire et sans insistance. C'est pas mal non plus.
Voilà, rien que ça. En Israël, le patron du renseignement intérieur remercié par le gouvernement.
Ronen Bar, véritable bête noire du Premier ministre Benjamin Netanyahou, lui qui était entré en poste en 2021 et qui avait multiplié les enquêtes contre le pouvoir. Ronen Bar, patron du Shin Bet, remercié par le gouvernement israélien. À la demande de Benjamin Netanyahou, justement, on retrouve en direct de Jérusalem notre correspondant Michel Paul. Bonjour Michel.
Bonjour Martin, bonjour à tous.
Michel, le limogeage de Ronen Bar a été décidé à l'unanimité. Il doit être remplacé dans les trois semaines à venir.
Oui, au plus tard le 10 avril, c'est la date limite fixée par le gouvernement israélien pour l'éviction de Ronen Bar. Et c'est la première fois dans l'histoire du pays qu'un directeur du Shin Bet, le service de sécurité intérieure, est limogé. Alors la raison officielle invoquée, ne pas avoir rempli son devoir le 7 octobre 2023 pour éviter le pire fiasco qu'ait connu Israël, nommément ne pas avoir rendu compte au Premier ministre en temps voulu. Benjamin Netanyahou a fait état d'un manque de confiance dans ses relations avec le chef du Shin Bet. Ce dernier a préféré ne pas participer à la réunion du gouvernement qui a duré plus de 3 heures. Il a envoyé une lettre adressée au ministre dans laquelle il accuse Netanyahou de représenter une menace pour la sécurité nationale, notamment en entravant les enquêtes sur les liens de plusieurs de ses proches collaborateurs avec le Qatar. Ronen Bar affirme également que le Premier ministre israélien a nui aux négociations sur la libération des otages en le retirant, lui et le chef du Mossad, de la tête de l'équipe des négociateurs.
Et cette décision, Michel, se heurte à une très forte opposition populaire.
Des milliers d'Israéliens ont manifesté face au bureau du Premier ministre hier soir à Jérusalem sous une pluie battante et une température particulièrement froide. Une protestation contre le limogeage du chef du Shin Bet, mais aussi contre la campagne d'épuration, contre ce que Benjamin Netanyahou appelle, à l'instar du président américain Donald Trump, le Deep State, l'État profond. Dimanche prochain, le gouvernement doit entamer une procédure d'éviction contre la procureure générale de l'État, cette fois. Et parmi les nombreux orateurs, hier soir, l'ancien ministre de la Justice du Likoud, le parti de Netanyahou, Dan Meridor, le Premier ministre représente un danger pour la démocratie, a-t-il proclamé.
Merci Michel Paul, en direct de Jérusalem sur RFI.
L'armée israélienne qui poursuit par ailleurs son opération au sol dans le sud de la bande de Gaza.
Et le président israélien Isaac Herzog qui s'est dit troublé par la reprise des combats, l'une des très rares critiques émises de sa part contre la politique de Benjamin Netanyahou. Selon la défense civile de Gaza, au moins 504 personnes sont mortes depuis la reprise des frappes israéliennes ce mardi. Les pays arabes continuent d'œuvrer pour un plan de reconstruction de Gaza et le président français Emmanuel Macron se rendra dans ce cadre en Égypte pour une visite d'État les 7 et 8 avril prochains.
En Syrie, la communauté alaouite cherche désespérément refuge après les massacres.
Minorité de l'ancien président Bachar al-Assad, particulièrement ciblée depuis la chute du régime en décembre. Des centaines de familles ont pris la fuite suite aux exactions qui ont eu lieu sur la côte ouest dans la région de Latakié ces dernières semaines. Massacre qui ont fait près de 1500 morts selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, des familles qui trouvent notamment refuge à la frontière avec le Liban, comme à Tal Bireh, où s'est rendue notre correspondante Manon Chaplin. Reportage.
La mairie de Tal Bireh a été transformée en refuge. À terre, des dizaines de matelas empilés, des valises encore ouvertes, des réchauds et couvertures. C'est ici que dort depuis 3 jours Isra. Et s'il faut, dit-elle, j'y resterai encore plusieurs mois.
Ici, grâce à Dieu, nous n'avons plus peur. Ils nous nourrissent, nous donnent à boire et nous fournissent tout ce dont nous avons besoin.
Depuis une semaine en Syrie, son village à Laïché est le théâtre de violents combats. Des tirs du matin au soir venus d'hommes vêtus de noir. Un matin, 5 d'entre eux sont entrés chez elle par réfraction, ont détruit sa porte, pillé sa maison. Ce qu'il voulait surtout, c'était son mari, un ancien soldat de l'armée de Bachar al-Assad. Par chance, ce jour-là, il n'était pas là.
Je ne comprenais pas ce qu'il disait, car il ne parlait même pas arabe. C'était des combattants étrangers. J'ai juste compris qu'il disait « Allahu Akbar » et « Alaouite ».
À Tal Bireh, une soixantaine de familles alaouites ont débarqué au lendemain de la chute du régime. Depuis le début des exactions sur la côte début mars, elles sont désormais 500. La mairie, la mosquée, mais aussi les maisons des habitants ont été ouvertes pour les accueillir. Abdelhamid Sakr, le maire de la ville.
Il y a de nouveaux réfugiés qui arrivent ici tous les jours. Ils arrivent dans notre ville et dans les villes alentours. À chaque fois, nous leur demandons « Retourneriez-vous en Syrie si le gouvernement vous disait que c'était à nouveau sûr ?» Ils nous répondent « Nous n'y retournerons pas tant qu'il n'y aura pas de protection internationale. »
À quelques kilomètres de la mairie, des tentes ont été montées pour accueillir les réfugiés syriens dès 2011. D'après le maire, un deuxième camp devrait prochainement être ouvert pour accueillir ces nouvelles familles débarquées de Syrie. Manon Chaplin à la frontière libano-syrienne, RFI.
RFI, 8h07 à Goma, à 200 km à l'ouest de la capitale provinciale du Nord Kivu, le M23 s'empare de Wali Kale.
Oui, localité de 60 000 habitants, carrefour du Nord Kivu sur la route de Kindu et de Kisangani, l'une des plus grandes villes de RDC. Une avancée territoriale pour le groupe armé qui intervient au lendemain de la rencontre surprise entre le président congolais Félix Tshisekedi et son homologue rwandais Paul Kagame à Doha, au Qatar. Explication, Esdras Dikoumena.
Attendu mardi, le M23 a décliné l'invitation du président angolais pour ses premières discussions avec le gouvernement congolais à Luanda et a préféré pousser son avantage militaire pour s'emparer dès le lendemain de l'agglomération de Wali Kale centre à quelques 250 km à l'ouest de Goma, analyse un chercheur congolais, comme pour dire qu'il n'était pas concerné par ce qui s'est passé à Doha, ajoute-t-il. Chef-lieu du territoire de Wali Kale et fort de 60 000 âmes, Wali Kale centre est au cœur de la région minière considérée comme la plus riche de l'est du Congo. L'agglomération est également située au bord de la route nationale numéro 3 qui mène vers Kisangani, la capitale de la province de la Tchopo, et vers Kindu, celle de la province du Maniema. Signe de son importance, le nouveau commandant de la 34e région militaire des FRDC, le général Constantin Mrondisi Muyusa, qui avait habituellement son siège à Goma, aujourd'hui occupé par l'AFC M23 soutenu par le Rwanda, venait tout juste d'y installer son état-major général. Hier, un calme très précaire a régné jusqu'à Moubi, à quelques 30 km de Wali Kale centre, où se sont repliés de nombreux habitants en provenance de cette agglomération, ainsi qu'une partie des militaires congolais basés dans la zone selon des témoignages recueillis par RFI. Ils disent attendre anxieusement la suite des événements.
Esdras Dikoumena du service Afrique de RFI.
L'actualité africaine, c'est aussi le jour de gloire de Kirsty Coventry.
La Zimbabwéenne qui gravit l'Olympe, elle a déjà goûté 2 fois à l'or olympique dans les bassins. C'était hier son heure olympique dans le petit paradis grec de Costa Navarino. Kirsty Coventry, première femme de l'histoire, élue présidente du comité international olympique. L'actuel ministre des Sports du Zimbabwe qui prendra ses fonctions le 23 juin prochain.
Donald Trump persiste et signe un nouveau décret qui enterre le ministère de l'éducation.
Ministère démantelé par le président américain après un premier décret prévoyant de réduire les effectifs de moitié. En voici un deuxième qui prévoit la fin pure et simple des activités de l'agence fédérale créée en 1979. Donald Trump qui tient là une promesse de campagne. L'éducation sera présent à 100%, une prérogative des États fédérés. La décision doit être validée par le Congrès. Un décret déjà salué par les ultra-conservateurs qui voient l'école un champ de bataille contre les idées progressistes. Loubna Naki.
Nous allons fermer le département très vite, se félicite Donald Trump en signant le décret rendant officiel sa volonté de démanteler le département de l'éducation. C'est un jour historique, dit-il. Et pour justifier sa décision, le président américain critique le mauvais niveau de l'éducation dans le pays. Il dit vouloir redonner la main aux États.
On va renvoyer le contrôle aux États. C'est une mesure très populaire, mais avant tout, une mesure de bon sens. Cela va probablement coûter moitié moins cher pour une éducation qui sera bien, bien meilleure.
En réalité, les États contrôlent déjà comment et quelles matières sont enseignées. Le département, lui, s'occupe principalement des programmes destinés aux élèves démunis, à ceux en situation de handicap, et gère aussi l'immense dette étudiante. Et surtout, le département de l'éducation a été créé par le Congrès et seul le Congrès peut donc le fermer. Mais ce que le président américain essaye de faire, c'est de réduire au maximum la masse salariale ainsi que les services assurés par le département. Un travail qui a déjà commencé car ces dernières semaines, le nombre d'employés a été réduit de plus de la moitié. Le décret signé hier a été vivement critiqué par certains élus démocrates et des syndicats d'enseignants qui dénoncent, je cite, un théâtre politique. Loubna Naki, New York, RFI.
Et puis Martin, on termine en France où l'on marche demain contre le racisme.
À l'occasion de la journée internationale contre le racisme, des dizaines de rassemblements dans tout le pays, alors qu'en France, les discriminations, notamment à l'embauche, persistent. C'est un fait, vos chances d'accéder à un emploi ne sont pas les mêmes selon votre couleur de peau. Des discriminations qui apparaissent dès les études supérieures, selon une étude de l'Observatoire national des discriminations et de l'égalité dans le supérieur. Étude qui révèle que l'origine des postulants à certains diplômes est bien un critère de sélection, Marie-Casa Debé.
Pour tester l'impartialité des responsables de formation, les chercheurs ont choisi de leur envoyer des fausses demandes d'information par mail. Elles viennent toutes de candidates fictives, une précédente étude réalisée dans les mêmes conditions ayant démontré l'absence de discrimination par le genre. Berlanda Dessouza-Fissémé est l'une des auteurs de cette étude.
Il n'y a que le nom et prénom qui distingue les candidates testées.
Les chercheurs ont ainsi choisi 5 types de patronymes à consonance française, asiatique, juive, nord-africaine et ouest-africaine. Le résultat est sans appel.
Seul le signal d'une origine maghrébine et d'une origine d'Afrique de l'Ouest sont pénalisés dans leur demande d'information.
Ces deux catégories ont 8,5% de chances de moins que les autres d'avoir une réponse à leur mail et l'écart atteint 15% pour les filières scientifiques.
On a déjà montré que ce sont les responsables de formation qui reçoivent le plus de candidatures, qui avaient le plus tendance à discriminer.
L'étude souligne que s'il existe des discriminations lors d'une simple demande d'information, il est fort probable qu'elles se répètent tout au long du master.
Marie-Casa Debé, la journée mondiale contre le racisme, on y revient aussi tout à l'heure dans 8 milliards de voisins avec Darren Diaye. Mais pour l'heure, vous retrouvez Julien Coquelin-Rouem.
Merci beaucoup Martin Guèze et tout de suite les sports. Avec vous Antoine Grenier, du football au menu et d'abord la Ligue des Nations en Europe, l'équipe de France prend une claque.
Défaite 2-0 à Split en quart de finale aller face à la Croatie, un score qui aurait même pu être plus lourd si Mike Maignan, le gardien tricolore, n'avait pas repoussé le pénalty de Kramaric dès la 8e minute. Mais le portier français s'est ensuite incliné par deux fois face à Budimir et Perisic. Des bleus sans imagination qui voient leur chance de qualification sérieusement compromise. Le sélectionneur Didier Deschamps n'a en tout cas pas apprécié la prestation de ses joueurs.
Doute un peu trop apathique et puis des erreurs techniques et la qualité de l'adversaire en face fait que on a été puni. Le constat il est là, qu'il y a de la fatigue, mais tout ce qui a été préparation d'avant-match et de le tout début était en adéquation, mais après ça s'est vite désagrégé, une erreur plus une erreur et ça nous amène à être plus fébriles.
Didier Deschamps avec Cédric De Oliveira. Match retour dimanche au Stade de France. À noter dans les autres quarts de finale, le match nul entre les Pays-Bas et l'Espagne de partout. L'Allemagne s'est imposée en Italie 2-1 et le Danemark a battu le Portugal 1-0.
Les autres nations européennes pour la plupart engagées dans les éliminatoires de la Coupe du Monde avec la grande première de l'Angleterre à la sauce Thomas Tuchel.
Nommé en janvier, c'est le premier match de l'Allemand en tant que sélectionneur sur le banc des Sri Lions. Et même s'il n'est pas le premier, la nomination d'un entraîneur étranger à la tête de la sélection anglaise avait été beaucoup critiquée, mais pas de quoi perturber l'ancien coach du Paris Saint-Germain, Tuchel, qui a insisté sur l'importance de jouer avec l'envie de gagner.
Nous voulons mettre en place un jeu collectif où tout le monde se sent en confiance pour s'exprimer et donner le meilleur de lui-même. J'espère que les joueurs voient ce que je vois tous les jours à l'entraînement et pourront le transformer dans le stade. Car ce que j'ai vu ces derniers jours est impressionnant. C'est juste une joie de regarder et de participer à cette aventure. J'espère que nous pourrons transposer cette énergie et cette faim pendant le match. En plus, nous jouerons dans un Wembley à guichet fermé. Cela sera magnifique.
Angleterre-Albanie, coup d'envoi 19h45, temps universel. Dans le groupe des Anglais, Andorre accueille la Lettonie. Autre rencontre au programme, Chypre-Saint-Marin à 17h TU. Et puis à 19h45, temps universel, Pologne-Lituanie et Malte-Finlande dans le groupe G. Et Roumanie-Bosnie-Herzégovine dans la poule H.
Des éliminatoires de Coupe du Monde qui se disputaient également en Amérique du Sud. Et une victoire importante pour le Brésil.
13e journée, les Brésiliens privés de Neymar renouent avec le succès. Après deux nuls consécutifs, ils ont dominé la Colombie 2-1 sur un but de Vinicius au bout du temps additionnel. Dans le même temps, le Paraguay a porté sa série d'invincibilité à 7 matchs en dominant le Chili 1-0 pour se hisser au 4e rang. En bas de tableau, le Pérou a dominé la Bolivie 3-1.
Merci Antoine Grenier.
RFI Matin.
Bonjour Stéphane Genest.
Bonjour Julien.
Dans Aujourd'hui l'économie, on s'intéresse ce matin au secteur de la musique, puisque les chiffres de l'industrie musicale mondiale pour 2024 viennent d'être publiés par l'IFPI, la Fédération internationale de l'industrie phonographique, et ils sont bons. Le secteur poursuit sa croissance pour la 10e année consécutive, portée par les plateformes d'écoute en ligne.
Oui, et on va rentrer dans le détail dans un instant, mais en effet, le marché de la musique se porte bien. Il pèse aujourd'hui à peu près 30 milliards de dollars à travers le monde, hein, en hausse, vous le disiez. Une progression qui repose essentiellement sur le streaming. Ces plateformes d'écoute comme par exemple Spotify, Apple Music ou Deezer qui représentent plus de 2/3 des revenus du secteur.
Un secteur qui tire ses revenus justement de l'abonnement des utilisateurs.
Tout à fait. D'ailleurs, le nombre d'abonnés payants à une plateforme de ce type étant aussi en augmentation. Dans ce rapport de la musique mondiale publié par l'IFPI, on voit cette tendance prendre de l'ampleur. Oui, le consommateur paie pour écouter de la musique. On le constate dans les finances des géants du secteur. Illustration aux États-Unis, puisque le pays a atteint les 100 millions d'abonnements au streaming musical payant. Et puis la plateforme Deezer a vu son chiffre d'affaires augmenter l'an passé, lui permettant pour la première fois de son histoire d'atteindre son seuil de rentabilité, c'est-à-dire le montant de chiffre d'affaires nécessaire pour que les recettes de l'entreprise soient au moins égales à ses dépenses.
Alors comment on explique cette dynamique ?
Eh bien déjà Julien, parce que certaines régions du monde jusqu'ici peu intéressées par ces plateformes le sont aujourd'hui. Le nombre d'abonnements a explosé en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud. Sur ces trois zones, cette croissance est d'environ 22-23%. En comparaison aux États-Unis, elle n'est que de 2%. Certains des plus grands marchés atteignent donc un point d'adoption relativement élevé, ce qui signifie que la croissance des nouveaux abonnés a été plus lente.
Donc une part de l'explication réside dans l'ouverture à d'autres marchés. Mais est-ce que c'est aussi grâce aux stratégies des plateformes ?
C'est vrai, les plateformes se repositionnent petit à petit afin que l'on s'abonne pour écouter de la musique. Avec un simple abonnement, Deezer, dont on parlait justement, propose une expérience client premium en organisant par exemple des jeux concours pour assister aux concerts de vos artistes préférés, voire les rencontrer dans le cadre d'événements chapeautés par la marque, à destination de ses clients évidemment. Des initiatives permises aussi par le travail des maisons de disques qui jouent un rôle clé dans le succès des artistes et par extension des plateformes, tendance amplifiée par les réseaux sociaux.
Avec un enjeu colossal, Stéphane, ne pas se laisser dépasser par l'intelligence artificielle.
Sujet qui préoccupe les plateformes effectivement. Sur Deezer, une chanson sur 10 mise en ligne par semaine est générée en partie ou en intégralité par l'IA. Et dans un marché où plus d'un million de titres sont publiés par semaine, un million, difficile de surveiller si chaque morceau est issu de la créativité humaine ou pas. Certaines plateformes mettent d'ailleurs en place des barrières pour d'une part limiter ces initiatives et d'autre part éviter à des robots d'amplifier le nombre d'écoutes de chansons, ce qui implique une rémunération. Les géants du secteur vont donc devoir trouver un équilibre entre prix compétitif, séduire de nouveaux clients et surtout, Julien, protéger les artistes.
Aujourd'hui, l'économie. Merci Stéphane Genest. 7h19 à Paris. C'est comme si trois piscines olympiques remplies de glace fondaient chaque seconde quelque part dans le monde. Une image pour prendre conscience de l'ampleur d'une catastrophe en cours, la fonte des glaces, alors que depuis l'an 2000, en seulement 25 ans, les glaciers du globe ont perdu 5% de leur volume initial sous l'effet du réchauffement climatique, que certains sont déjà perdus ou condamnés, et qu'à la fin du siècle, la surface des terres désenglacées fera au minimum la taille d'un pays comme le Népal. Face à ce désastre et ses conséquences inévitables qui s'avancent, l'ONU, qui parle ce matin d'un enjeu de survie de l'humanité, lance aujourd'hui la toute première journée mondiale des glaciers et un appel à protéger ces châteaux d'eau de notre planète. Notre invité ce matin les connaît bien. Bonjour Vincent Colliard.
Bonjour Julien.
Et merci d'être avec nous. Vous êtes explorateur, connu notamment pour être devenu l'an dernier la personne la plus rapide à rejoindre le pôle sud en solitaire et sans assistance. Vous êtes un des deux visages du projet Ice Legacy qui vise à traverser les 20 plus grandes calottes glaciaires de la planète pour rendre compte de la réalité que je viens de décrire. Vous avez déjà d'ailleurs une trentaine d'expéditions en milieu polaire en autonomie à votre actif. Traverser ces terres glacées, voir le réchauffement climatique à l'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Quels sont les signes que vous voyez déjà?
Eh ben, on voit beaucoup de signes là quand on passe quand on passe jusqu'à 2 mois sur la glace en autonomie complète. On voit clairement en fait le retrait des glaciers. Ça, on l'a vu au cours de ces 15 dernières années. Et puis, en plus de, c'est vrai que de tous les documentaires qu'on voit sur la fonte des glaces, nous, le fait d'avoir nos skis sur la glace nous permet clairement de voir le changement. Hein.
Il y a un moment où ça vous a frappé plus qu'ailleurs, un endroit où cette fonte accélérée vous est apparue encore plus évidente?
Alors en fait, moi, ce qui m'a vraiment choqué, c'est juste avant de démarrer ce projet en 2012, avec mon compagnon de cordée, le Norvégien Borge Husland, on a fait le tour du pôle Nord à la voile sur un trimaran. Mmh. Et c'est ça qui a déclenché le projet, parce qu'on a été capable de naviguer en une seule saison, en 4 mois, et de faire le tour du pôle. Et ça a été rendu possible à cause. Ça a été un succès. Champagne, on a été très content de réussir, mais en fait, sous-jacent, c'est aussi une défaite parce que ça montre à quel point la glace diminue.
Oui, ça veut dire qu'on peut dire que vos conditions d'exploration témoignent de cette réalité, que la fonte des glaces, le réchauffement climatique ont rendu accessibles certains endroits qui ne l'étaient pas, ont permis de traverser plus rapidement d'autres zones. C'est
ça. Exactement.
Je citais dans mon introduction quelques chiffres issus d'une étude récente d'un regroupement international de scientifiques qui s'alarme aussi de l'accélération de la fonte des glaciers, avec par exemple en 2023 une perte de masse 2 fois plus élevée que la moyenne des 25 dernières années. Cette accélération, vous la voyez aussi? Il y a des fois où vous êtes surpris par la vitesse que prennent les choses?
Oui, vraiment. Nous, on est amené à reconsidérer notre emploi du temps, clairement. Au lieu de faire des expéditions généralement fin de printemps, qui est la meilleure saison parce que un maximum de neige recouvre les crevasses et puis solidifie les ponts qui sont entre les crevasses, on est amené maintenant à partir quasiment en hiver parce qu'on s'est retrouvé en période de printemps avec très très peu de glace et quasiment plus de neige.
Et cette accélération qu'évoquent les scientifiques, ça veut dire que potentiellement les chiffres, les prévisions dont nous disposons aujourd'hui sont en deçà de la réalité, parce qu'il y a eu une réelle surprise avec les derniers chiffres publiés.
Oui, je crois vraiment. Et pour info, en fait, le problème des régions polaires, leur charme également, mais c'est qu'elles sont extrêmement sensibles aux températures. En fait, il faut penser qu'ici à Paris, on va dire qu'un ou deux degrés de hausse des températures, on le sent pas vraiment. On est plutôt content et on se dit qu'on va mettre le t-shirt. Dans les régions polaires, ces glaciers-là, ils transpirent clairement. Comme nous, si on se mettait à faire du sport. Et donc, 1 ou 2 degrés de hausse des températures, ça transforme la glace en eau. Ouais. Et donc les conséquences sont énormes.
Vos expéditions visent aussi à rendre compte de la pollution que subissent les glaces. Comment ça se manifeste concrètement? Là aussi, ça se voit à l'œil nu parfois, cette pollution?
Ça se voit à l'œil nu, on voit beaucoup de suie. La suie, par exemple, les traînées qui sont laissées... la suie, elle peut être naturelle, par exemple des volcans, mais ça peut être aussi les traînées d'avions qu'on voit dans le ciel.
Ouais.
Toute cette suie, donc on va dire ce carbone, en fait, cette poussière qui retombe sur les glaciers, elle est noire. Ça, on la voit à l'œil nu.
Qui se voit? C'est une poussière noire sur les glaciers.
C'est une poussière noire qui se voit clairement. Également, on voit des algues qui sont un peu marron, rose. Ça, quand les étés sont trop chauds, pardon, il y a de plus en plus, à cause des hausses des températures, il y a de plus en plus d'algues qui se forment sur les glaces.
Votre démarche est évidemment pensée aussi pour accompagner les scientifiques dans leurs recherches. En plus des mesures qu'ils peuvent faire, des observations par satellite, que peut apporter à la connaissance l'exploration de terrain comme vous la pratiquez? Qu'est-ce qui la rend indispensable?
Mais moi, je crois que ça fait, notre projet, je l'espère du moins, fait un pont, en fait, entre la science et l'aventure. Parce que pour moi, je me souviens, étant jeune, j'étais beaucoup plus sensibilisé à des histoires. On est finalement peut-être la seule espèce à raconter des histoires et à essayer de passer un message. On n'est pas là que pour survivre et donc ouais, c'est pour ça que j'espère que le projet Ice Legacy réussira à faire ce pont-là.
On parle souvent des chiffres, des conséquences dramatiques qu'implique la fonte des glaces, 1 milliard d'humains menacés par la hausse du niveau des mers, 2 milliards d'humains en danger en termes d'accès à l'eau, mais ce sujet est loin d'être central pourtant. Dans le débat public, ça vous étonne?
Oui, bien sûr. Pour moi, en fait, c'est, je pense que les glaciers, de ne pas préserver les glaciers, c'est en gros comme si on allait finalement ne pas aimer nos enfants ou les générations qui vont venir. Parce qu'une fois que on aura tous trop chaud, puis qu'on aura tous de la fièvre. Ça va être un combat qui va être extrêmement, extrêmement difficile. Et aujourd'hui, on est plus préoccupé par combien de têtes nucléaires on a réparties sur la planète, plutôt que de quelque chose qui est plus grand que nous et qui va, moi, je pense clairement, menacer la vie humaine.
Oui, c'est la question que j'allais vous poser. La montée des idées d'extrême droite et des populismes, les crises politiques et démocratiques qui se multiplient, le retour du spectre de la guerre, font aussi reculer la cause environnementale, l'action des pays. C'est particulièrement vrai avec le retrait de Donald Trump des États-Unis d'un certain nombre d'engagements climatiques. C'est vrai aussi des COP qui ont été relativement des échecs ces dernières années. La période actuelle vous inquiète sur le plan politique, sur notre capacité de réponse à l'urgence?
Énormément. J'essaie de rester positif parce que quand on part en expédition, il faut aller de l'avant et garder le cap. Mais la réalité, c'est que c'est vrai que c'est dur aujourd'hui de lire les nouvelles et puis à chaque matin et de se rendre compte qu'en fait, on est très très loin des préoccupations environnementales.
Une journée mondiale comme celle décrétée par l'ONU aujourd'hui pour les glaciers, c'est bien, c'est symbolique. Mais est-ce que l'action des États, des dirigeants est en cohérence et suffisante aujourd'hui, face à cet objectif et cette urgence?
Non, les efforts ne sont pas là, ouais, clairement. Et je pense qu'on est focalisé sur d'autres aspects, comme toujours, le pouvoir, l'ego. Et au lieu de travailler tous ensemble sans frontières, parce que les glaciers et puis le réchauffement climatique, ça n'a pas de frontières. Et c'est la couche qui nous permet de respirer, hein, c'est la seule frontière. Et je pense que c'est un effort, tous ensemble.
Et vous parliez de raconter des histoires. Le fait que des explorateurs comme vous en racontent, vous pensez que ça peut faire la différence avec des dirigeants, avec l'opinion publique, que certains peuvent prendre conscience comme ils ne le prendront pas avec des rapports alarmistes et alarmants?
Ouais, c'est tout le but en fait d'Ice Legacy. C'est qu'en fait, si moi on me dit par exemple il y a tant de millions de kilomètres carrés de glace qui fondent, je m'en rends pas compte. Ouais. Mais si on me raconte l'histoire et on me dit clairement qu'il y a des explorateurs qui traversent des glaciers et puis qu'on a des terrains de foot entiers qui fondent à chaque jour, ça c'est une image visuelle qui est beaucoup plus forte.
Il nous reste un peu plus de 30 secondes, Vincent Collière. Votre prochaine aventure, c'est où, c'est quoi?
C'est dans 2 semaines, partir au Canada, une fois de plus, avec Borge Husland, mon compagnon de cordée norvégien, et on part pour traverser, essayer de faire la première traversée en autonomie complète de l'île d'Elsmer, qui est tout en haut du Canada, voisine du Groenland. Et puis sur cette île, il y a 3 calottes glaciaires.
Merci beaucoup Vincent Collière, avec ce beau métier qui n'est pas que dans les romans d'aventure. Explorateur, on vous souhaite une belle expédition dans quelques semaines et vous reviendrez nous la raconter. À très bientôt.
À bientôt, merci.
Bientôt 6h30 en temps universel.
Priorité santé. Laurence Garcia vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans Questions de femmes, on attend vos témoignages sur la souffrance liée au travail. Harcèlement, burn-out, charge mentale, on vous répond sans tabou.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
À quoi ça ressemble quand des chercheurs trouvent ? À moi. Grâce à la recherche, je vis avec le VIH. Mais je dois vivre avec un traitement à vie. Une santé plus fragile. Des discriminations. On vit, oui, mais on n'est pas guéri. Grâce à la recherche, on peut vivre avec le VIH. En aidant la recherche, on pourra vivre sans. Faites un don à SIDAction sur sidaction.org.
L'atelier des médias, Steven Jambeau.
L'administration Trump a entamé le démantèlement des médias publics américains opérant à l'étranger. Pour comprendre ce que sont ces médias qui ont pour nom Voice of America ou encore Radio Free Europe et apprécier ce qu'ils représentent, je reçois Maud Kessar qui est directrice de recherche à l'IRSEM. L'atelier des médias, c'est dimanche à 11h10 temps universel sur RFI.